C'est l'heure de l'émission de l'Ouganda congolais avec Claude Kianza à la présentation.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Les ONG de défense des droits de l'homme contestent le verdict rendu le 28 juin dernier à Lubumbashi, au Katanga, par la cour militaire de cette province. Ce verdict concerne les massacres perpétrés contre la population de la cité de Kilwa en 2004 par des éléments effarissés de la 62e brigade, mais aussi les crimes commis à Pweto, toujours au Katanga, par cette même brigade commandée à l'époque par le colonel Ilunga Ademar. Ce verdict condamne notamment l'ancien commandant de la 62e brigade FRDC pour des faits commis à Pweto, mais aucun condamné pour les massacres perpétrés à Kilwa. Pour rappel, d'après un rapport conjoint de l'ONG Action contre l'impunité et les droits humains, ACIDH, et RED, une ONG britannique, plus de 100 personnes avaient été tuées dans la cité de Kilwa, dont une vingtaine auraient été des victimes d'exécutions sommaires. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Mme Liz Harbour, se dit préoccupée par l'acquittement des accusés, aussi bien civils que militaires, dans le procès sur le massacre de Kilwa. Pourquoi les ONG de droits de l'homme contestent-elles ce verdict et que peuvent être les conséquences de ce verdict sur la vie des habitants de Kilwa? Telles sont les deux parties de l'émission de ce soir. Trois invités ont accepté d'y participer. Maître Georges Kafiambia, avocat au barreau de Lubumbashi, membre du comité de la ZADO et avocat des victimes, qui intervient au téléphone depuis Lubumbashi. Maître Franck Moulenda, qui est ici dans ce studio, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et avocat d'Anvil Mining, société dont la responsabilité avait été mise en cause dans les massacres de Kilwa, et Maître Augustin Makabou, l'un des avocats des personnes accusées, qui intervient aussi depuis Lubumbashi, au téléphone. Quelques réactions des auditeurs. Adjo Ngolongo de Kinshasa trouve que ces verdicts prouvent insuffisant le manque de sérieux et des responsabilités qui caractérisent la justice de notre pays. Pour Pikina de Goma en Nord Kivu, le procès de Kilwa ne peut pas nous étonner, d'autant plus qu'il y a des hauts responsables du pays qui sont impliqués. La politique de deux poids deux mesures ne finira jamais au Congo. Enfin, Mongondji de Mbandaka dans l'Équateur affirme que tant que la justice ne sera pas indépendante dans notre pays, nous assisterons toujours à la partialité de la justice.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099 8999 222.
Le verdict est tombé le 28 juin dernier au sujet du procès sous le massacre commis à Kilwa en octobre 2004. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et quel était le verdict? Notre confrère Pornay Munanga, qui se trouve sur place à Lubumbashi et qui a couvert ce procès pour le compte de Radio Okapi, nous en parle dans cet entretien avec notre consoeur Céline Couté.
Paulin Diplovo, qui avait assisté à une grande partie du procès de Kilwa dont le verdict est tombé le 28 juin dernier, pouvez-vous nous rappeler très brièvement les événements qui ont conduit à ce procès?
Effectivement, Kelly, la cité de Kilwa située à près de 350 km de Lubumbashi dans le district du Haut-Katanga était attaquée et occupée le 14 octobre 2004 par un groupe insurrectionnel dénommé Mouvement pour la Renaissance et l'Indépendance du Katanga, MRLK en sigle. Le lendemain, c'est-à-dire le 15 octobre, les éléments de la 62e brigade des FARDC dirigée par le colonel Ilunga Ademar ont lancé une contre-attaque pour déloger de Kilwa les militants de MRLK. D'après un rapport conjoint de l'ONG Action contre l'impunité et les droits humains ACIDH et RED, qui est une ONG britannique, plus de 100 personnes ont été tuées, dont une vingtaine auraient été victimes d'exécutions sommaires.
Combien de personnes étaient poursuivies dans ce procès, Paulin?
Au total, 12 personnes, dont l'entreprise Anvil Mining. Parmi eux, s'est trouvé 9 militaires et 3 employés expatriés de l'entreprise Anvil Mining.
Et quelles étaient les infractions qui étaient retenues contre ces personnes?
Ces personnes étaient poursuivies, entre autres, pour crimes de guerre, meurtre, pillage, arrestation arbitraire, détention illégale et viol commis à Kilwa et à Pweto.
Quelles étaient les infractions à charge de l'entreprise Anvil Mining?
Cette entreprise a été accusée d'avoir fourni des véhicules des RDC et ces véhicules auraient été utilisés pour transporter des biens pillés ainsi que des cadavres. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport de l'ONG ACIDH. Anvil Mining a soutenu que les RDC ont utilisé ces véhicules seulement pour le transport des troupes et ils n'étaient pas réquisitionnés des forces.
Et dites-nous, Paulin, comment s'est déroulé le procès?
Le procès a duré plus de 6 mois. La cour militaire du Katanga a même organisé des audiences foraines à Kilwa et Pweto. Objectif, entendre les témoins et victimes des exactions. Signalons que lors de ces déplacements, l'on a noté l'absence des avocats des victimes.
En fin de compte, comment se présente ce verdict de la cour militaire du Katanga, Paulin?
Monsieur Lee, 2 militaires ont été condamnés à la prison à perpétuité pour meurtre commis à Pweto. Il s'agit du colonel Ilunga Demar et du capitaine Sadiaka. Un militaire a été condamné par défaut à 5 ans de prison pour arrestation arbitraire et un autre à 1 an de servitude pénale avec paiement d'une amende de 30 000 francs congolais. Les autres prévenus ont été acquittés. Rappelons que la cour militaire du Katanga n'a pas pris en compte les infractions commises à Kilwa, dont les crimes de guerre. L'entreprise Anvil Mining a aussi été acquittée faute de preuves d'après la cour militaire.
Et comment ont réagi les différentes parties au procès après le verdict?
Le collectif des avocats des victimes dit ne pas avoir apprécié ce jugement et il annonce qu'il ira en appel. Les avocats de l'entreprise Anvil Mining ont manifesté leur satisfaction, tandis que les collectifs de la défense des prévenus affichent aussi sa satisfaction. Toutefois, les avocats du colonel Ilunga Demar annoncent qu'ils iront en appel. Ils considèrent que leur client n'a pas mérité cette condamnation.
Merci à notre confrère Pone Munanga et notre consoeur Kelinkouté, Maître Georges Kapiambia, vous êtes avocat au barreau de Lubumbashi, membre du comité de l'Azado, une ONG de défense des droits de l'homme, et surtout avocat des victimes. Êtes-vous satisfait par ce procès, par le verdict?
Non, mais comme je voudrais d'abord vous saluer, vous l'organisateur de ce débat, tout de suite je vous dis que en tant que membre de l'Azado ou en ce qui concerne l'Azado Katanga, nous ne sommes pas satisfaits par le verdict rendu par la cour militaire du Katanga en date du 20 du mois passé, pour des raisons qui ont été reprises dans les communiqués de presse que l'Azado a publié immédiatement après ce verdict. Donc, c'est une décision qui a déçu l'Azado Katanga, comme toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme qui suivaient ces procès.
Qu'est-ce que vous reprochez à ces verdicts?
Bon, je peux rapidement, je sais que dans une émission comme celle-ci, on ne peut pas tout aborder, tout analyser, mais je peux juste vous dire qu'il y a d'abord le fait que la cour militaire a créé une surprise en se déclarant d'abord incompétente pour examiner les demandes des victimes, et entre autres raisons que nous pouvons encore ajouter, c'est que la cour a dit qu'il n'y a jamais eu des crimes commis à Kilwa, ce qui n'est pas vrai. En soutenant une pareille position, nous avons, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme qui suit de plus près les événements qui se sont produits à Kilwa, nous avons considéré que la cour a voulu juste banaliser tout ce qui s'était passé et a voulu encourager l'impunité, voilà.
Et sur quelle base dites-vous que la cour n'a pas raison quand elle dit qu'il n'y a pas eu de massacre à Kilwa?
Oui, mais nous avons une base, c'est que en dehors du travail que la cour a fait, il y a eu aussi beaucoup de travaux qui étaient déjà effectués, que la cour ne pouvait pas ignorer, notamment les différents rapports rendus sur ces événements par plusieurs organisations indépendantes, telles que vous les avez citées dans l'introduction de votre émission. Et il faut ajouter à ces travaux un rapport important que la MONUC aussi avait produit à la suite de ces investigations menées sur le lieu. Donc nous considérons que la Cour ne pouvait pas rejeter toutes ces conclusions sans pour autant justifier pourquoi elle l'a fait.
Maître Georges Kapiamba, vous êtes défenseur des victimes. Est-ce que vous étiez présent lors du verdict?
Oui, nous étions présents dans la salle lors du verdict.
Mais à Kilwa, alors, lorsqu'il y a eu des audiences foraines à 350 km de Lubumbashi, est-ce que les victimes étaient représentées par des avocats?
Non, mais je dois vous dire que lors de la descente de la cour pendant les 7 jours que la cour a passé à Kiloa et à Poto, les victimes n'ont pas pu être représentées. Il y a eu certains problèmes qui s'étaient posés au niveau de la défense des victimes. J'ajoute aussi que dans les dispositifs qui étaient mis en place pour permettre le déplacement des avocats, par exemple, de la défense des prévenus, nous avions constaté que la cour a pu prendre même des avocats des prévenus, mais n'a pas pensé aussi prendre aussi l'un des avocats des victimes.
Donc, maître, s'il vous plaît, maître Georges Kapiamba, si nous vous comprenons bien, est-ce que vous voulez nous dire par là que les victimes des exactions à Kiloa se sont retrouvées eux-mêmes face à des avocats qui défendaient ceux qui étaient accusés?
Oui, mais c'était ça, c'est ce qui s'est passé à Kiloa. Les victimes qui ont comparu devant la cour pendant toutes les audiences organisées à Kiloa n'étaient pas assistées. C'était des victimes qui ont comparu seules.
On sait que la majorité de la population congolaise n'est pas instruite. Il y a un taux d'analphabétisme élevé. Est-ce que vous voulez dire que par là, que des gens qui ne sont pas outillés se sont retrouvés face à des spécialistes, c'est-à-dire des avocats qui défendaient des accusés?
C'est ce que j'ai dit, parce que ça c'est aussi un autre élément ajouté. La cour a organisé toutes les audiences foraines, c'est-à-dire à Kiloa, comme à Poto, alors que les victimes n'étaient pas assistées. La cour n'a même pas pris des dispositions pour leur commettre des avocats.
On vous a compris. On vous a compris, maître Georges Kapiamba. Nous avons également dans ce studio maître Franck Moulinda. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et avocat de la société en ville Mani, société dont la responsabilité avait été mise en cause dans les massacres des Kiloa. Êtes-vous satisfait par ce verdict?
Je suis naturellement satisfait parce que contrairement à l'approche des avocats de partie civile qui n'ont pas fait le déplacement, cet arrêt de la cour est bien motivé vis-à-vis d'Envie Mining et ses cadres, en ce sens que il a été démontré que les véhicules mis à la disposition de l'armée ont fait l'objet d'une réquisition de l'autorité.
Est-ce que vous aviez des documents qui disaient explicitement que l'État congolais demande de réquisitionner les véhicules d'Envie Mining pour des opérations militaires, qui se sont avérées assez dramatiques pour la population des Kiloa parce qu'il y a eu quand même des morts?
Oui, c'est dommage qu'au cours d'une telle émission, on ne peut pas tout aborder. Mais la réquisition peut être verbale. Et c'est ce qui a été fait, mais elle a été confirmée par la suite.
Par qui?
Par le gouverneur, au moment des faits.
Donc, oui, allez-y, maître.
Ouais. Et le deuxième élément qui a fondé la cour à quitter en ville, c'est l'intention de délinquer. Quand bien même le...
C'est-à-dire délinquer, parler avec un langage courant, parce qu'on n'est pas tous des spécialistes, nous et nos auditeurs.
Oui, c'est-à-dire que même si, à supposer qu'il n'y ait pas eu une réquisition, qu'en ville, l'autorité a mis les véhicules à disposition de l'armée. S'il est à supposer que les militaires commettent des infractions à l'aide de ces véhicules-là, à partir du moment où en ville n'avait pas l'intention de collaborer à la commission de ces infractions, en ville ne peut pas être condamné. À supposer même que le fait soit établi. Or, tel n'a pas été le cas dans ce dossier.
Maître Franck Moulinda, nous sommes des millions de Congolais, nous suivent, notamment également au Katanga. Donc, vous voulez dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de massacre des populations à Kiloa en 2004?
Mais c'est ça le tort des avocats des partis civils. Il fallait bien qu'ils fassent le déplacement de Kiloa pour vivre les événements tels qu'ils se sont déroulés.
Mais en âme et conscience, vous êtes avocat, est-ce qu'il n'y a pas vraiment eu de massacre là-bas?
Vous savez, l'avocat n'a égard qu'à la vérité du dossier.
C'est-à-dire?
La vérité du dossier, c'est-à-dire que tout ce que le dossier nous a révélé. Et là, j'ajoute un mot pour dire à mon estimé confrère que les rapports ne sont pas des preuves. Les rapports sont des renseignements donné au procureur pour engager des investigations, justement. Or, il n'a pas été confirmé. Imaginez que les gens qui sont morts des noyades disent que c'est le colonel Adhémar et Anvil Mining qui sont responsables. Il y en a qui sont des parents qui ont trouvé leurs enfants ou morts dans la cité, ils attribuent ça à Anvil Mining et au colonel Adhémar, par exemple.
Donc, pour vous, Anvil Mining est vraiment innocente dans cette affaire.
Mais tout à fait, je le confirme.
Bon, nous avons également dans ce studio en ligne, à partir de Lubumbashi, Maître Augustin Makabu. Vous êtes l'un des avocats des personnes accusées. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelles sont les personnes que vous défendez?
Ah oui, je commence par vous saluer, Monsieur Claude Tanza. J'ai eu à défendre le colonel Adhémar et le lieutenant Moloa. Tous deux étaient poursuivis pour les faits de Kiloa.
Voilà. Et quel est votre point de vue par rapport au verdict qui a été rendu public le 28 juin dernier?
Oui, nous avons eu à le dire. En ce qui concerne les faits de Kiloa, les crimes de guerre, nous sommes satisfaits dans la mesure où tous les deux clients que nous défendions étaient acquittés.
Mais votre client, quand même, votre client, le colonel Adhémar, a tout de même été condamné pour les exactions commises à Pweto.
Oui, c'est pour cela que je ne veux pas qu'on entretienne une confusion entre le fait de Kiloa et le fait de Pweto.
Oui.
Kiloa, c'est là qu'on parle de massacres, de crimes de guerre. Ce sont des faits qui se sont passés en octobre 2004. Et Pweto, ce sont des faits isolés pour lesquels notre client a été poursuivi. Il y avait plusieurs préventions pour le fait de Pweto, au total 6. Et sur les 6, la Cour a retenu 2 préventions, la restriction arbitraire de meurtre. Et c'est sur ce fait-là qu'il y a eu une condamnation. Et en rapport avec la condamnation qui est tombée sur la tête de notre client, nous avons eu à le dire, il est en appel. Hein, il n'est pas d'accord avec la décision de la Cour. Il a déjà interjeté appel, espérant que le juge d'appel pourra revoir l'œuvre du premier juge.
Mais en âme et conscience, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas eu de massacre à Kiloa? Parce que les ONG.
Personnellement, j'ai été à Kiloa.
Certaines ONG affirment, comme nous l'avions dit dans l'introduction de cette émission, qu'il y a eu 100 de morts.
Oui, j'ai été à Kiloa personnellement, avec la Cour, lorsque j'étais en train de mener l'instruction, parce que la Cour doit rechercher les preuves. Lorsqu'on traduit les gens, les personnes devant une juridiction répressive, cette juridiction a l'obligation de rechercher les preuves, se faire une conviction pour arriver à une condamnation. Et la Cour a fait ce travail, c'était un travail très fouillé. Nous avons pris beaucoup de jours à Kiloa, et à Kiloa même, nous avons effectué des descentes sur les lieux pour aller constater certains faits allégués, notamment dans des rapports des ONG. Mais nous, en droit, nous considérons l'instruction qui est faite par des institutions établies, à savoir la police judiciaire et le parquet. L'auditorat supérieur judiciaire a eu à faire son travail.
Rapidement, s'il vous plaît.
Et c'est ce dossier-là que la Cour est en train de vérifier par son instruction.
On vous a
la Cour, après l'instruction menée, est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas eu de crime commis à Kiloa. Mais nous, nous disons que la Cour nous a suivis parce que nous avons plaidé non coupable.
Voilà, on vous a compris. Nous avons suivi les avocats de différentes parties. Écoutons maintenant le point de vue des victimes elles-mêmes. Leurs propos ont été recueillis par notre confrère Paulin Munanga. Suivons-les.
Je ne suis pas content de ce jugement parce qu'on a mal jugé. C'est moi qui avais raison parce que j'ai perdu mes enfants. C'est des garçons qui étaient tués à Kiloa. Alors aujourd'hui, ça tombe cadique. Moi, j'ai rejeté l'appel qui est pas maintenant à la Cour haute militaire.
Il procède de chute na yon. Aïe, n'a bien joué un bel. Qu'il est tout chute na regrette. Tout le temps, à démarrer la semaine, bien la semaine, il faut 3 heures de temps. Mais à ringer à vendredi, 16h, 19h, à Neshavit. Mais bon, il faut que nous ayons 3 jours, je suis à Bante pour le dire à mon moukine. en ville na yeye kolone na demain après 3 jours njo en ville na tuma nyotoka chokunda kutubeba shi après 3 jours njo nyotoka en ville na njo kutufata kule kupori asema kumukini kuna kwa die murudie na tunarudia après 3 jours exactement ministère a dini poser question asema ulifaa combien de jours ne fa 3 jours mwele 3 jours shikukuta kintu mnyumba me bana renie na piage na masakri.
Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas Swahili, la dame qui vient de parler disait ceci, ce procès ne nous a pas plu. Lorsque nous sommes sortis, Ademar nous a bien expliqué qu'il avait passé 3 heures. Il est entré le vendredi à 16h et à 19h, il s'était déjà enfoui. Alors pourquoi est-ce que ceux-là ont attendu 3 jours pour retourner dans la ville? Ce n'est qu'après 3 jours qu'en ville a envoyé des véhicules dans la forêt pour nous récupérer, tout en nous rassurant que tout était redevenu à l'ordre. Tout était revenu à l'ordre. Exactement après 3 jours, le ministre m'a posé la question de savoir si j'avais passé combien de temps à l'extérieur de chez moi. À mon retour, je n'ai rien trouvé dans ma maison. Malheureusement, il continue à nier et le pillage et le massacre. Voilà, votre réaction d'abord, maître Moulenda. Vous dites qu'il n'y a pas eu de massacre là-bas, mais nous venons d'entendre, d'écouter cet homme qui a perdu ses 2 enfants.
Oui, vous savez, il faut d'abord rappeler que la responsabilité pénale est individuelle. Lorsque nous sommes tous les deux là, dans ces studios, vous ne pouvez pas répondre de mon fait. Moi, je ne peux pas non plus répondre de votre fait. C'est-à-dire, l'infraction que vous commettez, vous en êtes responsable. Quand, par exemple, les gens disent, je suis rentré de la brousse et j'ai trouvé mes 2 enfants morts. Qui les a tués? Les militaires d'Ademar. Mais il faut identifier l'auteur des faits. Et que cet auteur de fait réponde. Et par ailleurs, on dit, mais pourquoi ils ont fait 3 jours? Mais la guerre ne s'arrête pas comme ça, comme un véhicule qui s'arrête du coup. Il y a ce qu'on appelle les opérations de consolidation. Il faut vérifier si l'ennemi est complètement parti. Et j'en termine rapidement. Pour Enville. Quel a été le mobile pour Enville de tuer? Mais 3 jours après, aller au secours de cette même population. Pour non seulement la faire revenir dans la cité, mais envoyer même une barge pour faire revenir cette population dans la cité.
Mais puisque ce papa dit qu'il a perdu ses 2 enfants, est-ce que même de façon collatérale, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, même de façon indirecte, dans Vin Mining, dans les tueries qu'il y a eu là-bas?
Oui, je comprends que vous voulez parler de la responsabilité morale.
Oui, parce que vous avez bien mis à la disposition de l'armée des véhicules.
Non, mais nous ne sommes pas dans le domaine de la morale. Le droit à sa morale, c'est différent de la morale tout court. Donc, ici, il faut établir, pour engager la responsabilité pénale d'Enville, qu'Enville a mis à la disposition de l'armée des véhicules dans le but de commettre les crimes de guerre.
Voilà, nous allons rentrer à Lubumbashi. Nous avons également Maître Makabu, l'un des avocats des accusés. Maître, vous venez de suivre l'un des parents qui dit qu'il a perdu ses 2 enfants et vous niez qu'il n'y a pas eu de massacre là-bas. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cela? Maître Augustin Makabu?
Papa, oui, je vois de qui il s'agit. Ce papa avec son épouse ont eu à comparaître devant la cour militaire. Et ils n'ont pu apporter aucune preuve parce que la maman a dit à la cour qu'elle était en fuite avec tous ses enfants. Et l'un des enfants est rentré à la cité pendant qu'il y avait la guerre. Eux qui étaient en train de fuir la guerre. L'un des enfants est rentré et qu'il semble que cet enfant a été trouvé, serait trouvé mort dans leur parcelle, une parcelle qui est voisine au quartier général des rebelles. Et nous avons conclu que l'enfant était dans le mouvement des rebelles. Ils n'ont pas su prouver que le colonel Ademar avait arrêté cet enfant, comme le fait était présenté, et qu'il l'a extrait du lieu de détention pour aller l'exécuter à Saint-Saud, parce que c'est pour cela qu'il était poursuivi. Il était poursuivi pour avoir arrêté certaines personnes qu'il avait détenu et après il a tiré ces personnes de leur lieu de détention pour aller les tuer à Saint-Cède. Le lieu était très bien précisé dans la décision de renvoi de l'officier du ministère public. Mais nous disons que ce papa, avec son épouse, ont comparu et ils n'ont apporté aucune preuve à la cour.
Voilà.
Un petit conseil de leurs enfants.
Merci. Nous restons toujours à Lubumbashi avec Maître Georges Kapiambia, avocat au barreau de Lubumbashi, membre de la ZADO et avocat de victimes. Voilà, le point de vue semble être discordant. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Oui, Claude, je voudrais d'abord préciser une chose, hein, parce que j'ai entendu que lors de la descente à Kilwa, après tout, la cour a fait une instruction, a vérifié les choses. Mais je voudrais qu'on dise les choses en toute vérité. Lorsque la cour est descendue à Kilwa, est-ce qu'on peut nous dire si la cour a entendu un seul chauffeur de la société Anvil Mining qui avait participé, par exemple, dans les transports des militaires et parmi lesquels il y a eu certains qui avaient participé dans les transports de personnes qui devaient être exécutées au village de Sincel, situé à 30 km de la cité de Kilwa.
Et pourquoi on n'a pas écouté?
Mais
pourquoi on n'a pas entendu un seul chauffeur?
Mais la demande a été formulée, introduite auprès de la cour. La cour n'a pas voulu examiner cette demande. J'ai voulu. Est-ce que lorsque la cour est arrivée, par exemple, au village Sincel, qui est situé à plus ou moins 30 km de la cité de Kilwa, là où se trouvent les fosses communes, qui avaient été constatées par différentes missions d'enquête, notamment la mission dirigée par l'ancien auditeur militaire de Lubumbashi. Et il y a eu même des procès verbaux de constat qui ont été établis à cette occasion. La cour n'a pas pu visiter ces fosses communes. Lorsque vous lisez le point de vue de la cour, il est seulement ressorti que la cour ne pouvait pas y arriver parce que l'endroit est totalement submergé par une grande brousse.
Est-ce que ce n'est pas parce que vous, les avocats des victimes, étaient absentes de Kilwa pendant toutes ces enquêtes?
Non, mais c'est ce que je voudrais encore dire. Tout ça, c'est pas aussi vrai. On ne peut pas dire que le procès n'a commencé qu'à Kilwa. Le procès a commencé à Lubumbashi, mais la grande partie d'instruction du dossier a eu lieu à Lubumbashi. À Kilwa, ça avait été juste une mesure souhaitée par la cour afin de vérifier l'existence concrète des fosses communes.
Voilà, on vous a
d'attendre certaines victimes.
La
descente de Kilwa ne pouvait pas devenir comme quelque chose de plus important par rapport à tout ce qui était fait à Lubumbashi.
Voilà, on vous a compris. La population des Kilwa s'est aussi exprimée sous le verdict rendu le 28 juin dernier par la cour militaire. Suivons-les avant de revenir à ce studio.
Nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce procès et nous regrettons la manière dont le jugement a été rendu. Vous savez, c'est regrettable qu'on prenne la vie des citoyens à la légère et on a constaté que ce jugement a plus concerné Pweto, alors que nous savons tous que c'est à Kilwa où il y a eu beaucoup de massacres. On connaît ce que c'est chez nous ici, la justice, il y a l'intimidation, la corruption et tout ça. Et je crois que c'est peut-être pour ça que la justice n'a pas su avoir les éléments de preuve sur le massacre de Kilwa.
Notre point de vue est que la justice n'a pas fait son travail. Je ne sais pas si c'est par pression suite aux enjeux qui sont économiques ou alors peut-être aux implications de certaines autorités actuelles qui sont au pouvoir dans les intérêts miniers qui sont à Dikoloshi. Mais nous pensons que la justice a failli à sa tâche et qu'elle devrait plutôt essayer de se ressaisir et de revoir ce procès en appel.
Moi, je trouve qu'il serait mieux de reprendre ce procès et juger tout le monde parce qu'ils ont tué. Surtout les massacres de Kilwa, nous insistons beaucoup qu'on condamne tout le monde et non acquitter les uns et condamner les autres. C'est ça mon point de vue.
Notre position, c'est que nous avons constaté que le tribunal ne respecte pas le principe d'interchangeabilité des magistrats, qu'on peut dire. Le premier magistrat fait des enquêtes approfondies, mais le second n'a pas tenu compte de cela et finalement, on a balayé toute la situation pour blanchir certaines personnes ou certaines entreprises qui étaient d'une manière ou d'une autre impliquées dans l'affaire. Donc, c'est une justice à double vitesse.
Voilà, le procès, leurs propos ont été recueillis une fois de plus par notre confrère Paulin Munanga. Le procès qui, loin, n'a pas été équitable, pense Maître Guy Mouchata de Avocats Sans Frontières, une ONG. Selon lui, c'est-à-dire Avocats Sans Frontières, ce procès, il repose ses plaintes sous le non-respect par la Cour militaire du principe d'équitabilité. Les avocats des victimes n'avaient pas eu le temps nécessaire et la logistique pour prendre part à toutes les audiences foraines organisées à Kilo. Loi et Pueto. Les propos de Maître Guy Mouchata ont été recueillis par notre confrère Daniel Tambintoni.
Nos inquiétudes sont fondées essentiellement sur le caractère, je dirais, équitable de ces procès. C'est-à-dire que la Cour n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'équitabilité des procès, c'est-à-dire respecter le principe d'égalité des armes. Les victimes n'ont pas été représentées par des avocats durant toutes les audiences foraines et pourtant cette étape a été cruciale dans l'instruction complémentaire pour établir la culpabilité ou non des accusés. Autre chose aussi, c'est l'orientation de la Cour au procès. Malgré cet déséquilibre, donc, la Cour a continué à instruire et n'a de manière, je dirais, un peu à la sauvette, accorder à nos avocats les temps nécessaires pour accéder aux différents procès-verbaux des audiences foraines qui ont été tenues à Kiba et à Pueto. Donc c'est en termes de respect des principes d'équitabilité du procès que nous exprimons des inquiétudes.
Je rappelle que Avocats Sans Frontières est une ONG qui a suivi du début jusqu'à la fin le procès relatif au massacre de Kilwa. Maître Franck Moulinda, vous êtes avocat dans Ville Mining et votre société a été acquittée d'après le verdict rendu le 28 juin dernier. Mais il y a quand même une opposition entre le point de vue de la cour militaire et le point de vue de la population de Kilwa et même d'Avocats Sans Frontières. J'estime que le procès n'avait pas été bien conduit. D'abord par rapport à la population. Pourquoi cette contradiction entre ce que pense la population et le verdict?
Ah, vous savez, il y a un avocat, un célèbre avocat français qui a qualifié la population, l'opinion publique d'une prostituée. Je ne aborderai pas les choses sous cet angle-là. Mais la cour est bien descendue à Kilwa. Elle a entendu tout le monde. Il y a eu même des communiqués à la radio, à une radio locale. Passé à longueur de journée, tout le monde est venu. Toutes les contradictions ont été constatées là-bas entre les prétendues victimes. Et puis, lorsque nous parlons de la descente des avocats des victimes à Kilwa, mais qui m'excuse, mon estimé confrère Maître Georges a écrit à la cour. La cour nous a donné lecture de la lettre que Maître Georges a écrit à la cour. Prescrivant certains devoirs à la cour, notamment rentrer à Lubumbashi et entendre trois personnes. La cour y a fait droit. En aucun moment, il a été question d'entendre les chauffeurs d'Anville. C'est la lettre écrite de la main de mon district confrère. Et en plus, Kilwa est attaqué par les rebelles. L'armée gouvernementale intervient pour déloger les rebelles. Réquisition, Anville Mining envoie les véhicules. Mais à l'exposition donc des militaires les véhicules. Qu'est-ce que l'autorité, les problèmes économiques, le cuivre, qu'est-ce que ça vient faire dans le dossier? Je ne comprends pas. Alors, à moins qu'on me dise que le vrai dossier est ailleurs.
Voilà, maître, vous êtes, il y a eu des problèmes à Kilwa, personne ne peut le nier. Est-ce que Anville Mining continue à travailler à Kilwa ou dans les contrées où votre société exploite le cuivre et l'argent?
Ouais, mais je ne sais pas, l'avocat n'est pas témoin, mais je peux oser vous dire que pendant tout le temps qu'on faisait la route, mais les villages l'applaudissent.
Donc vous gardez encore des bons rapports avec votre société Anville Mining, garde toujours des bons rapports avec la population.
Ma cliente garde de très bons rapports. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets entre les chefs de village, les populations voisines et ma cliente Anville Mining.
Voilà. Nous avons également en ligne, à partir de Lubumbashi, Maître Augustin Matabou. Je rappelle que vous êtes avocat des prévenus, c'est-à-dire des ceux qui avaient été accusés. Nous venons de suivre la population des Kilwa qui se plaint que le verdict n'a pas été équitable. Comment expliquer cette contradiction entre le point de vue de la population qui est acquis là sur place où les exactions avaient été commises d'après les ONG et la décision de la Cour?
Monsieur Claude, la réaction sociale est toujours la même. Hein. Les gens pensent que ce qu'ils ont entendu dire est vérité et cela doit conduire absolument à la condamnation des personnes. Contrairement à la vérité judiciaire, la Cour a fait son travail. C'est là que nous ne sommes pas d'accord avec l'avocat des partis civils. La Cour a été assainie, là où on prétend qu'il y a eu des fausses communes, où les gens ont été exécutés. Nous avons eu à constater que Saint-Cel est un cimetière où on a enterré les victimes de guerre, du côté des rebelles comme du côté des militaires français qui ont trouvé la mort lors de la bataille.
Donc vous estimez que la Cour a fait son travail, le verdict est bon, c'est ça?
Le verdict est équitable. D'ailleurs, l'arrêt a été suffisamment motivé. Et je crois que les avocats de la partie civile ou des parties civiles étaient dans la salle. Et la motivation a été lue. La Cour a pris le temps de lire tout l'arrêt.
Voilà,
sans motivation.
Merci.
Et aussi, le fait que nous puissions souligner quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, l'absence des avocats du parti civil à Kilo. Nous nous disons que ça a été prémédité parce que ces avocats étaient à Kilo lorsqu'ils menaient des enquêtes. Mais lorsque la Cour doit descendre pour vérification de tous les faits, c'est l'étape la plus importante pour un avocat. Parce que c'est là que la décision va être prise pour que le client puisse obtenir ce qu'il recherche. Mais c'est à ce moment-là que les avocats des partis civils devraient tout mettre en œuvre, toutes les batteries devraient être mises en marche pour être Kilwa.
Voilà. On va laisser
plus de 40 personnes ont été entendues à Kilwa.
Exactement. Vous avez porté certaines accusations contre les avocats de la partie civile des victimes. On va maintenant laisser Maître Georges Capiambia vous répondre.
Oui, je voudrais dire que tout ce qui vient d'être développé...
Que vous n'étiez pas présent, et c'est le moment le plus important, vous deviez être là, mais vous, les avocats de victimes, vous n'étiez pas là.
Non, mais je voudrais d'abord signaler que lui-même, les confrères Augustin Makabousse, qu'il a pu prendre place à bord de l'avion qui a transporté les membres de la Cour. C'était sur l'intervention d'un des membres de la Cour.
Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de
temps. Il ne pouvait pas monter dans cet avion. Lui qui devait aller assister l'un des prévenus a eu au moins la possibilité de monter dans cet avion, alors qu'aucun des avocats des partis civils n'a eu la même chance de monter dans cet avion.
Voilà, donc, vous l'avez déjà dit.
Vous l'avez déjà dit qu'il y avait déjà un déséquilibre. Mais voudrais revenir sur un élément, si vous permettez,
rapidement. Oui.
Oui, la question relative à l'instruction. Je voudrais insister sur un fait. Le procureur militaire qui était descendu à Kilwa, à Pointeau, et qui avait mis plus d'un mois en train de mener des enquêtes, avait réuni toutes les preuves et après même mis cela à la disposition de la Cour. Mais comment se fait-il que la Cour n'a pas pu exploiter tous ces éléments, bien que utilisés et mis à sa disposition par le procureur?
Voilà, on va revenir à vous. On va revenir à vous, Maître Georges. Bonsoir, Pamela Mounazo. Voilà, nos auditeurs ont également réagi. Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Nous commençons par Mirou Guinestor de Kisangani en province orientale qui estime que le verdict sur le massacre de Kilwa ne vient que confirmer qu'en RDC, la justice est un instrument de riche. Julien de Kinshasa demande que justice soit faite, que la cour militaire revise le verdict qu'il avait rendu. Floride de Goma, au Nord Kivu, pense que ce verdict est injuste. Il faut que des solutions puissent être trouvées rapidement. Toujours au Nord Kivu, Pochumbili pose cette question. Si la justice congolaise est injuste, à quelle autre instance pouvons-nous encore confier nos problèmes? Voilà.
Voilà, merci Pamela Amunazo. Cela nous permet d'entrer directement dans la deuxième partie, mais d'aller réagir également à nos auditeurs. Que peuvent être les conséquences de ce verdict sur les habitants de Kilwa? Donc c'est la deuxième partie de cette émission, Maître Moulenda, d'après vous.
Oui, je ne sais pas, mais le droit est dit, et tout le monde se plie. Il y a des voies de recours, j'ai appris qu'il y a des appels qui sont formés. Nous allons voir au niveau de la haute cour militaire ce que ça va donner, mais je voudrais quand même dire qu'il y a là un problème d'information. J'entends beaucoup de gens réagir, même de Lubumbashi, mais combien de gens étaient dans la salle d'audience? je voudrais vous
dire. Dans la salle d'audience à Lubumbashi,
à Lubumbashi. Et même dans certains rapports que j'ai lus, on parle d'un tracteur qu'Envir Mining aurait mis à la disposition des militaires pour creuser les fosses communes. Mais c'est un caterpillar en panne depuis 1976. Mais pourquoi on ne le dit pas dans les rapports pour dire qu'on a été dans l'erreur, qu'on remette les choses, et tout ça la population consomme. Moi je suis inquiet. Et par exemple à Kilwa, il y a un monsieur qui a reçu, qui nous a donné un formulaire d'un cabinet d'avocats en Europe, je ne sais pas comment ce document est arrivé, pour dire Envir Mining va vous indemniser avec autant, vous allez me rétrocéder autant. Est-ce que les ONG de droits de l'homme du Congo appuient ce genre de choses?
Maître Moulinda, vous êtes l'avocat d'Envir Mining, une compagnie étrangère qui a investi dans le domaine minier. Est-ce que vous pensez que ce procès fait partie des difficultés que les entreprises étrangères ont dans l'exercice de leurs activités ici en République démocratique du Congo, et que probablement cela pourrait pousser certaines entreprises étrangères dans le domaine minier, par exemple, à ne plus vouloir investir dans ce pays?
Ouais, je ne m'engage pas trop dans cette voie, mais c'est justement l'observation, le constat que j'ai eu à faire. Il y a même certaines demandes venues du gouvernement, mais en ville, elle est puissante maintenant, et qui perd dans tout ça.
Voilà, on vous a compris, maître. Maître Augustin Makabou, vous êtes avocat de ceux qui avaient été accusés, notamment le colonel Ilunga Demar, qui a été condamné à perpétuité. Quelles peuvent être les conséquences de ce verdict sur les avis, sur l'avis des habitants des Kilwa, notamment, qui estiment que ce verdict n'était pas équitable?
Bon, j'aimerais d'abord préciser que mon client n'était pas condamné pour les faits des Kilwa.
Oui.
En ce qui concerne les conséquences de l'arrêt qui vient d'être rendu par la Cour militaire du Katanga, nous avons été à Kilwa, nous avons constaté que les gens étaient animés d'un esprit de sécession, parce que Kazadi, il a été établi que Kazadi était bien accueilli, les gens étaient dans la joie.
Mais on les a aussi, entendus.
De toute façon,
on les a aussi entendus, c'est plein,
que cet arrêt doit avoir un effet dissuasif sur les habitants de Kilwa qui pensent que demain ils peuvent adhérer à un mouvement d'un rebelle pour créer un État indépendant du Katanga. Donc, voilà. Cette décision doit avoir un effet positif sur les gens qui ont encore cette pensée-là.
Voilà, on vous a compris, maître. Maître Jean,
que nous avons sur...
Voilà, effet dissuasif. On vous a compris. Maître Georges Kapiambia, vous êtes avocat des victimes, vous êtes membre de l'Azado. Et quelles pourraient être, d'après vous, les conséquences de ce verdict sur la vie des habitants des Kilwa? Est-ce que vous pensez que ça va améliorer les choses ou comment vous le trouvez?
Non, mais cette décision va tout de suite renforcer la méfiance de la population vis-à-vis d'une institution aussi importante que la justice, compte tenu du rôle qui est reconnu par la Constitution en tant que garant de liberté, de droits et libertés fondamentaux. Donc, à partir du moment où la population ne se retrouve pas dans cette décision, je crois que ça sera une méfiance totale. Je voudrais ajouter une chose en disant que par rapport aux sociétés étrangères, il existe des normes des Nations Unies sur la conduite que doivent avoir ces sociétés-là lorsque elles viennent investir dans des pays, quelle que soit la partie du monde, c'est de respecter les devoirs qui leur sont établi de ne pas participer dans la commission des violations des droits de l'homme.
On vous a compris,
Après cette commission des violations des droits de l'homme, elles doivent par des communiqués de presse les dénoncer pour montrer
que c'est solidarité. On vous a compris.
Il y a une résolution des Nations Unies qui interdit aux sociétés multinationales de s'impliquer dans les crimes de guerre. Mais il faut prouver que ces entreprises-là ont commis le crime de guerre.
Maître Moulinda, il y a Mirou Guinestor de Kisangani qui pense que le verdict sur le massacre de Kilwa ne vient que confirmer qu'en RDC, la justice est un instrument de riche. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Mais qui est riche?
Votre société, par exemple.
Oui, mais la société a été accusée.
Voilà. Est-ce que vous pouvez également répondre à la même question rapidement, maître Augustin? Excusez-moi, Georges Kafiambia, vous êtes avocat des victimes.
Oui, mais c'est pas ce que j'étais en train d'expliquer. Moi, je dis, écoutez, si vous prenez ces normes-là des Nations Unies, il est dit que est coupable une société qui aura même tiré un simple profit de la commission de certaines violations des droits de l'homme. Voilà. Et là, c'est le cas à Kilo en 2004.
On vous a
donc
compris.
C'est pas vrai, la résolution n'est pas correcte, s'il vous plaît.
Malheureusement, nous sommes obligés de terminer cette émission. Merci. Merci à tous nos invités. Nadine Poul a été à la réalisation. Eric et Sidiakiala à la mise en œuvre. Merci et à demain. Au revoir.